Nous reprenons, si vous voulez bien, pour écouter Christopher Prendergast, qui est un très très ancien ami de l'université de Cambridge. Alors il a écrit sur beaucoup de sujets qui nous touchent de près, sur Paris et la littérature du 19e siècle. Mais je lui ai demandé cette fois de venir pour une raison plus particulière, parce qu'il est l'auteur d'un livre sur les mystères de Paris, d'Eugène Sue, qui a été publié en 2003, intitulé « For the people, by the people ». Et Eugène Sue, je vous avais montré un jour une très belle caricature d'Eugène Sue en chiffonnier, au moment de la publication du feuilleton des mystères de Paris, au tout début de la publication de ce feuilleton. Et c'est une, si mes souvenirs sont bons, c'est une caricature publiée dans le Charivari, très belle, et qui imposait d'avoir une communication aujourd'hui sur Eugène Sue. Donc, à toi, Eugène Sue, chiffonnage et littérature industrielle.
Mes remerciements à Antoine pour cette très belle invitation et le plaisir extraordinaire de me trouver à parler dans une salle qui s'appelle la salle Marguerite de Navarre. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi personnellement. Et pour en finir, il faut en même temps que j'avoue un certain sentiment d'inquiétude à vous parler en tant qu'étranger au sujet de votre propre histoire, mais c'est ce que Antoine m'a demandé de faire. Alors, aujourd'hui, et comme on sait bien, la figure du chiffonnier est devenue deux fois par personne interposée une figure emblématique d'une certaine modernité, surtout urbaine. D'abord et avant tout, Charles Baudelaire, et puis Walter Benjamin, lui-même partout dans le 19e, mais pour qui Baudelaire reste la référence capitale dans ses enquêtes sur la capitale. Alors de tout cela, je vais parler seulement en tant que petit avant-propos à mon sujet principal, le chiffonnier chez Eugène Sue. Excusez-moi, il s'agit d'une toute autre économie de représentation et, à vrai dire, nettement moins intéressante. Une économie contaminée par les lieux communs de la bienséance bourgeoise du 19e, indissociablement liée au discours de la bienfaisance, le discours, disons, de la comtesse d'Harville dans les Mystères de Paris. Ce qui va expliquer en grande partie le passage un peu plus loin dans mon intervention à une autre axe de discussion, de la figure du chiffonnier à ce qu'il est censé ramasser, les chiffons et leur rapport à la fois matériel et métaphorique à cette longue histoire à partir du XVIIIe siècle et où Sue va jouer un très grand rôle, c'est-à-dire la production de la dite littérature industrielle. C'est une expression de Sainte-Beuve. Pour Sainte-Beuve, Sainte-Beuve établissait une sorte d'équivalence entre, ici dans ce contexte, littérature et ordure, ou ce que Sainte-Beuve appelait aussi, avec un pareil mélange de dédain et de haine, l'invasion de la démocratie littéraire. Moi, je vais parler un peu de tout ça, mais mon but principal est de récupérer un peu cette histoire-là au moyen de ce que, vers la fin de mon intervention, je vais appeler un petit rêve parisien. Mais pour commencer, pour encadrer le sujet, je commence avec quelques références picturales. Dans l'art du chiffonnier, on l'a déjà vu à partir de la belle intervention de Myriam, dans l'art du 19e, excusez-moi, le chiffonnier a été repris énormément de fois pour devenir une sorte de topos, tout comme dans la littérature, il l'est dans les genres de la physiologie, du roman et parfois de la poésie. Ici, je distingue, dans le domaine de l'art, je veux dire, je distingue deux groupes d'artistes, bien que la frontière entre les deux soit un peu floue. D'abord, celui de Seurat et de Manet, et deuxièmement, celui qui à la fois précède et coïncide des dessinateurs, illustrateurs et caricaturistes, Daumier, Gavarni, Traviès, etc. Le plus remarquable, à mon avis du moins, c'est le crayonné de Seurat. Image pure du lumpenprolétariat, le sous-prolétariat, le lumpenprolétariat à l'état pur. Une image de dépouillement qui relève directement du caractère dépouillé de l'image elle-même. Un crayonné dont les lignes de la figure du chiffonnier ont l'air de disparaître dans une sorte de cribouillage noir qui, à tour de rôle, fonctionne comme une sorte de vide social qui échappe à toute taxonomie sociale, toute taxonomie des classes sociales. Et puis, avec Seurat, et naturellement bien plus connu, il y a Manet, ces deux tableaux, le vieux musicien et le buveur d'absinthe, que je mets ensemble pour une raison toute particulière. Un élément commun aux deux tableaux est le haut de forme porté par le chiffonnier. C'est un signe dans la sémiotique du 19e, d'une certaine aristocratie parmi les pauvres de Paris, et donc manifestation de cet héroïsme de la vie moderne dont avait parlé Baudelaire, et qui est au cœur de cet immense bâtiment écroulé de Walter Benjamin, le livre des passages, Das Passagenwerk. Et comme vous savez sans doute, le chiffonnier alcoolique et insolent dans le buveur d'absinthe est bien entendu directement inspiré par le vin des chiffonniers de Baudelaire. Mais à côté de tout cela, il y a cet autre Manet et son tableau qui s'intitule justement le chiffonnier. Là, il n'y a plus de haute forme. Plutôt, il y a un chapeau melon accompagné de vêtements troués, eux-mêmes tout près de devenir chiffon. Mais surtout, il y a cette attitude fière associée avec Liard, le chiffonnier réel, dit philosophe, est devenu célèbre, et dont il y a un écho dans le Thomas Virolock, le philosophe en guenille de Gavarni, ou dans les chiffonniers penseurs de Traviès. Ces derniers, à leur tour, ayant des voisins dont la physiologie les Français peint par eux-mêmes, et dans les rues de Paris de Zaconnet, où le travail nocturne, ramassant les déchets, est prôné comme activité purificatrice et donc moralement noble. Philosophe, donc, ici, signifie quelqu'un qui, malgré sa pauvreté, même sa destitution, respecte et même insiste sur les vertus civiques de l'ordre moral de la ville. Et c'est là, bien entendu, qu'on rejoint le monde de Gensu, et plus particulièrement la place du chiffonnier dans la relation primordiale entre les deux grandes catégories de la pensée sociale dans le roman populaire au XIXe siècle, misère et mystère. Cet univers à la fois misérable et mystérieux, parce que enfui dans les bas-fonds, où là où classe laborieuse et classe dangereuse se rencontrent et s'entremêlent. Et le symbole exemplaire duquel, dans les mystères de Paris, reste l'estaminé ou le tapis franc, situé au cœur de l'île de la Cité, comme une sorte de cloaque sociale de la capitale. Par contre, En ce qui concerne la figure du chiffonnier lui-même, en fait, il n'y en a pas beaucoup dans l'œuvre dessus. Pour la plupart, il fait plutôt partie d'un décor descriptif, une sorte de présence fantôme, si vous voulez, qui apparaît parfois pour disparaître presque immédiatement. Dans les Mystères de Paris, il n'y en a strictement aucun, à part comme objet de souvenir d'enfance. Le psychopathe meurtrier, le Chourineur, se souvient d'un chiffonnier, je cite là, qui m'a sommé de coups de croque, ou comme objet d'aspiration, celle de Saint-Jean, la jeune prostituée enceinte et emprisonnée avec Fleur de Marie, qui rêve d'un avenir avec son enfant une fois libéré. Je cite encore, « Je me ferai chiffonnière, balayeuse des rues, mais honnête. » Et dans le Juif errant, il y a Jacques Rennepon qui se déclare le fils d'un chiffonnier, mais le père, on ne le voit pas. À ma connaissance, dans les romans dessus, il y a un seul chiffonnier qui fonctionne comme personnage romanesque, au sens élémentaire d'une présence douée de parole. Et il s'agit justement du chiffonnier philosophe des Mystères du Peuple, confrère romanesque du chiffonnier Liguiard, et dont la philosophie fait écho de la Saint-Jean sur la vie honnête, ou toujours dans les Mystères de Paris, de l'artisan Morel, dont la souffrance est intenable, mais qui tient bon contre toute tentation au nom de ce qu'il appelle une misère honnête. Le voici, notre chiffonnier, dans les Mystères du Peuple, dans la rue, au moment de 48, se débattant avec un voleur qui a l'air lui-même d'avoir lu la propriété, c'est un vol de Proudhon. Je cite, « T'as volé et voulu assassiner au nom du peuple, toi, hein ?» J'adore cet « hein », ça dit tout. Et puis le voleur, « Ah, ça, voyons les amis, sommes-nous, oui ou non, en révolution ?» répondit le voleur d'une voix enrouée en riant d'un air cynique. « Alors, crevons les comptoirs. C'est ça, se reprend le chiffonnier, c'est ça que tu appelles la révolution, toi, crever les compteurs, les comptoirs, dit le chiffonnier, etc., etc. » Donc, le chiffonnier philosophe, comme défenseur du régime de la propriété privée, à la fois respectable et respectueux. Le chiffonnier, si vous voulez, politiquement correct, qui sûrement n'a rien en commun avec les chiffonniers de l'émeute de 1832, et tout le contraire du chiffonnier bourré de Baudelaire, qui trébuche sur le trottoir en rêvant de mettre fin à tout un régime politique. On pourrait, à la limite, aligner le chiffonnier dessus à une certaine réalité historique et sociale, là où le chiffonnier philosophe, doué d'une conscience de sa propre dignité, fait écho de ce moment où les chiffonniers se représentaient non comme sous-prolétariat, mais comme métier, même comme association ou confrérie, presque compagnonnage, avec, selon Bertrand dans les Français peints par eux-mêmes, leur lieu de rassemblement, le café qu'ils fréquentaient à la barrière de Fontainebleau, avec son hiérarchie curieuse, une salle nommée chambre des pairs, une deuxième chambre des députés, et celle, pour en finir, pour, je cite, la réunion des vrais prolétaires. Cela, c'était par exemple le milieu ou le genre de milieu des chiffonniers de 1832. Mais à vrai dire, ce n'est pas dans ce genre de milieu militant, qu'on retrouve le chiffonnier dessus. Somme toute, il s'agit d'une figure anodine dont l'intérêt est uniquement comme symptôme idéologique de tout ce qui faisait à la fois rire et vomir Marx et Engels dans la Sainte Famille. Et c'est en gros pour ces raisons-là que maintenant je vais laisser tomber tout le sujet de la représentation du chiffonnier chez Su pour passer à autre chose. Comme j'ai indiqué au début, ce qui m'intéresse ici beaucoup plus, c'est moins le chiffonnier que les chiffons et la chaîne historico-matérielle qui relie le chiffonnage à la fabrication du papier et à la culture moderne de l'imprimé. Comment c'est ? Les chiffons ramassés étaient destinés à plusieurs utilisations, dont une, pendant des siècles, était la fabrication du papier. Et Antoine, tout à l'heure, on en a déjà parlé un peu. Cet emploi, qui en France durait jusqu'aux premières décennies du XIXe siècle, était finalement balayé, pour ainsi dire, par la machine Fourdrinier. Il s'agit là de l'anglais Henry Fourdrinier, qui finançait l'invention du français Saint-Léger Didot, qui était parti pour Londres après s'être brouillé au sujet du brevet avec son collègue Louis-Nicolas Desson. Balzac en parle dans Les Illusions perdues par rapport à l'histoire de David Séchard, où il est longuement question du remplacement des anciennes méthodes de fabrication par les nouvelles technologies qui permettaient, même encourageaient, la production du livre comme marchandise à grosse échelle et avec cela la littérature de masse ou littérature industrielle, pour reprendre l'expression de Sainte-Beuve. Alors, ni dans les mystères du peuple, ni ailleurs, Su ne s'est jamais montré conscient du rapport historique entre chiffonnier, chiffon, papier, livre et littérature de masse. Il n'en est pas conscient, en partie du moins, pour la bonne raison qu'à l'époque où écrivait Su, le rapport chiffon-papier n'existait plus, sauf dans la production d'éditions de luxe. Mais il y a autre chose, une sorte de vestige de cette longue histoire reliant chiffonnage, papier et livre, et ce qui exige deux déplacements de l'axe de discussion. D'abord, de la question de la production matérielle du livre à la modalité de sa composition littéraire, et plus particulièrement la modalité principale des romans de Su, c'est-à-dire soit en feuilleton, comme pour les Mystères de Paris, soit en livraison, comme pour les Mystères du Peuple. Les deux suivant un rythme d'écriture de semaine à semaine, commandé par le fameux « suite à venir » à la fin de chaque épisode. Cette façon de composer et de publier ouvre tout un éventail de questions en sociologie de la littérature et histoire de la formation de la lecture populaire. Ici, je m'adresse uniquement au sort physique et social de ces fragments littéraires, soit feuilletons, soit livraisons. Souvent, ils étaient gardés, mais également abandonnés, même jetés. En attendant impatiemment le numéro prochain, on jette selon le rythme même de la consommation moderne, c'est-à-dire le rythme selon lequel feuilleton ou livraison devient, c'est le rythme selon lequel feuilleton ou livraison devient une forme de déchet. Ou si vous préférez, cette fois au sens métaphorique du terme, une sorte de chiffon. Et c'est ce passage à la métaphore qui m'amène à un autre contexte, mon deuxième déplacement, et avec lequel je vais finir, le rapport entre composition et circulation. Les modes de circulation des romans dessus étaient multiples, souvent informels et difficiles à repérer statistiquement. On a calculé que les lecteurs des Mystères de Paris étaient 5 à 10 fois plus nombreux que les abonnés du journal, le journal des débats, ou acheteurs du livre une fois les faits ont rassemblé ultérieurement en publication entière. Mais la forme de circulation qui m'intéresse ici dépasse toute statistique. C'est celle où feuilleton ou livraison circule en tant que déchet. Et pour simplifier, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je prends 2 exemples assez répandus à Paris au XIXe. Premièrement, le monde des domestiques dans la maison des gens aisés, à même de payer l'abonnement au journal ou aux livraisons, et une circulation selon des relations à la fois sociales et spatiales. Disons la relation maître-valet, mais l'anglais, l'expression anglaise, je veux dire upstairs, downstairs, est nettement supérieure. C'est-à-dire, une fois devenu déchet ou rebut, pour anticiper un mot important, j'y reviendrai dans un instant, la matière de lecture aurait été ramassée par un domestique pour repartir dans une seconde vie de lecture. Deuxième exemple, le café, ou la goguette, l'estaminet, scène de rassemblement ouvrier et où la lecture du journal, souvent à haute voix pour les analphabètes, marquait de nouvelles formes de sociabilité en écho de la veillée rurale traditionnelle. Et Martin Nadeau en parle assez longuement dans ses souvenirs. C'est dans ces contextes de circulation, on pourrait en rajouter d'autres, bien sûr, par exemple l'atelier, mais c'est dans ces contextes de circulation que le sens métaphorique du chiffon acquiert sa pleine force. Abandonné, ramassé, passant de main en main, la circulation informelle de ces morceaux de texte m'amène à ma conclusion, ce que je propose un peu légèrement, il faut l'admettre, mais j'insiste, pas frivolement, comme une sorte de rêve parisien. Il y a là, bien entendu, un écho d'encore un poème de Baudelaire, et où justement, au-delà de l'opposition idéologique, révolte contre conformisme, Sue et Baudelaire se rencontrent, même si le rendez-vous est de très courte durée. Dans Conseil aux jeunes littérateurs, Baudelaire avait fait un compliment, un petit compliment, très petit d'ailleurs, jeune Sue, mais ça n'a pas duré en 1952 dans le Hibou philosophe. Il parle de Gensu comme, je cite, un talent bête et contrefait. Mais à plusieurs reprises, Baudelaire a pensé le poète en guise de chiffonnier, qui, comme nous le rappelle Antoine, entre un compagnon dans un été avec Baudelaire, soit dans les paradis artificiels, soit dans le poème Le Soleil, fouille rue et boulevard de la ville, de la capitale, à la recherche de rimes et de rythmes inattendu, avec quoi modifier et rénover la tradition poétique. Imaginons donc une de ces petites vieilles tirées du poème célèbre de Baudelaire, vêtues de leurs jupons troués, qui ouvrent son sac plein de rebuts, si, toujours selon Antoine, on suppose que caché dans le mot rébus ou rébus, là il y a déjà toute une question, qui figure dans le poème, le mot rébus au sens de casse-tête, dans la troisième strophe, il y a aussi le mot rebut au sens de ce qui est destiné à la poubelle. Alors, notre petite vieille, elle sort de son sac, elle sort du papier, une page de journal, disons, ou quelques pages d'une livraison qu'elle aurait peut-être trouvé au hasard en trottant toute courbée le long du boulevard. Peut-être qu'elle l'a lu, peut-être pas, mais elle la jette. Un chiffonnier de passage la ramasse et, sachant lire, il part avec au café pour en faire la lecture, soit pour lui-même, soit à haute voix pour d'autres qui ne savent pas lire. De là, imaginons les réflexions et discussions qui s'en suivent, surtout comme réaction à cette belle coïncidence selon quoi la trouvaille du chiffonnier n'est autre chose que l'épisode dans les Mystères du Peuple où le chiffonnier dessus discute avec le voleur. Alors ça, c'est un très joli rêve. Mais encore plus, c'est avec ceci que je termine. Imaginons que notre chiffonnier ne sait pas seulement lire, mais aussi écrire. Plus tard, chez lui, dans sa hotte, il se met à écrire une lettre à M. Su au sujet de ce qu'il vient de lire, soit pour le féliciter, soit pour le critiquer. C'est-à-dire, il devient pour les Mystères du Peuple comme un de ces lecteurs écrivains de lettres envoyés à Su pendant la composition des Mystères de Paris, et qui, selon Louis Chevalier, aurait influencé le développement du récit au fur et à mesure que Su l'écrivait. La thèse de Chevalier, pour vous la rappeler très brièvement, est selon laquelle les Mystères de Paris étaient un roman non seulement au sujet du peuple, mais aussi en partie du moins par le peuple, que j'ai poursuivi, la thèse que j'ai poursuivie dans le petit bouquin dont avait parlé Antoine tout à l'heure. Nous le savons, cette hypothèse, cette thèse ne tient pas debout, tout en étant très belle. Mais avant de paraître en livre, édité par Jean-Pierre Glavan, ces 300 lettres qui fournissent la base de l'hypothèse de Chevalier, 300 lettres qui ont survécu parmi à peu près 1100, la plupart donc destinées justement à la poubelle, c'est su qui les aurait jetées, ces 300 qui ont survécu, sinon comme déchets, au moins comme des bribes documentaires déposées dans la bibliothèque historique de la ville de Paris. Et c'est là où je les ai lus moi-même, il y a à peu près 40 ans, expérience dont je garde un souvenir très, très vif. Ce qui, j'espère, justifie ou excuse mon petit rêve parisien, où chiffonnier, déchets, papier et littérature se rejoignent pour évoquer un beau moment de démocratie littéraire improvisée sur le boulevard parisien. Farfelu, bien entendu, Sainte-Beuve n'aurait sûrement pas approuvé, mais bon, je vous remercie.
Merci, Christopher, pour cette communication qui devrait susciter beaucoup de réactions. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire, moi, sur ce que je viens d'écouter. Et, bon, je voudrais évoquer quelques points, et puis on peut commencer à discuter de ça. Bon, d'abord, le Manet,
oui.
Le chiffonnier de Manet.
Oui.
Ça m'a évoqué un drôle de souvenir, parce que je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était avec toi plus ou moins. Le chiffonnier de Manet se trouve au Norton Museum à Pasadena, en Californie. Et soudain, j'ai eu l'impression qu'on s'est rencontrés là. Claremont College.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a 30 ans.
La première fois, d'ailleurs.
Je crois que c'est la première fois que ouais. s'est rencontré. Soudain, c'est m'est revenu à l'esprit, ce souvenir. Et c'est donc le jour où j'ai vu le chiffonnier de Manet au Norton Simon Museum à oui. Pasadena, en Californie. Je ne sais pas si tu l'as vu le même jour.
Non, je ne me rappelle
pas. Et je l'ai commenté dans mon cours, ce tableau, parce qu'il fait partie d'une série de 4 tableaux que Manet avait vendus sous le titre « Les philosophes ».
Voilà.
Les 4 tableaux, oui. Il y a le buveur d'absinthe, que tu as cité, et les 2 mendiants qui se trouvent à l'Art Institute à Chicago. Le mendiant avec un chapeau et le mendiant avec un manteau. Donc c'est pour Manet, ces 4 tableaux qui ont des dates assez différentes. Le buveur d'absinthe est ancien, les 2 mendiants sont plus tardifs. Et... bon, pour lui, c'était les 4 philosophes. Il les a vendus à Durand-Ruel comme un ensemble. Alors, bon, c'est intéressant parce que ce tableau s'appelle Le Chiffonnier. En vérité, est-ce un chiffonnier ? C'est difficile à dire. C'est une sorte de cheminot, quoi. Il a le... Mais c'est un peu liard, en effet. Ouais. C'est un chiffonnier. Ouais. C'est pas un chiffonnier enregistré. Il n'a pas de hotte, il n'a pas de crochet. Il est un chiffonnier amateur. Comme Liard, chiffonnier philosophe. Et puis aussi, ce qui est beau dans ce tableau, c'est que le tas d'ordures au coin de la borne, en bas à gauche du tableau, en fait, c'est une nature morte. C'est un, il n'y a pas d'eau qui en sorte, etc. C'est une nature morte. Et ça montre bien cette sorte d'esthétisation du chiffonnier. Dans ce moment. Donc, j'étais content que tu commences avec celui-là. Maintenant, sur Su. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus que ce que tu dis. Vas-y. Sur le chiffonnier dans les mystères de Paris et dans les mystères du peuple. Parce que dans les mystères de Paris, les 2 héros, la goualeuse et le chourineur, sont des enfants trouvés au coin d'une borne. Tous les 2 sont des enfants trouvés au coin d'une borne. Qui est-ce qui trouvait les enfants au coin de la borne à Paris au XIXe siècle ? C'était le chiffonnier qui trouvait les enfants là. Et le chourineur a en effet été élevé par un chiffonnier.
Oui.
Il a été élevé par le chiffonnier qu'il a trouvé au coin de la borne.
Oui.
Et quand il raconte son destin, oui. il sait qu'il redeviendra chiffonnier à la fin de sa vie. Oui. En fait, il mourra, comme se sacrifiant pour Rodolphe. Mais quand il raconte son histoire dans l'un des premiers chapitres, c'est le cycle de la naissance à la mort à travers la chiffonnerie. Et donc, ils sont tous les 2... les 2 héros marqués par ce destin du chiffonnier qui est très fortement affirmé dans les premiers chapitres, puisque tous les 2 racontent leur histoire oui. dans les premiers chapitres, et c'est une histoire où le chiffonnier joue un rôle, oui. à mon avis, central, oui. comme représentant du cycle de la vie.
Mais et, si je peux oui. interrompre là, oui. Tu as tout à fait raison, Antoine, sauf que l'histoire du chourineur, l'histoire de son enfance ne figure pas dans le roman. C'est-à-dire, et le...
Il la rappelle.
Il en parle. Il parle de ses origines. Mais ce n'est pas exactement la même chose que la présence active au niveau du récit, et surtout au niveau du dialogue, la présence du chiffonnier en tant que tel. Le chiffonnier est là, mais à la marge. Il existe dans un temps qui précède le temps du déroulement du roman. Et c'est exactement la même chose avec, dans Le Juif errant, avec le personnage de Jacques Rennepont, qui parle aussi de ses origines. Son père était un chiffonnier, mais on ne voit pas le père. Mais oui, je n'avais pas pensé. Ce à quoi je n'avais pas pensé, oui. Ce que tu as dit là, Antoine, c'est, oui, quelle est l'explication? Les enfants abandonnés, qui les trouvait, qui les retrouvait?
Les chiffonniers.
Oui. Et ça, c'est très important.
Et c'est un topos de la littérature de l'enfant élevé par le chiffonnier. Parce que le bon chiffonnier recueille l'enfant. Et dans le chiffonnier de Paris Pia, en 1947, il y a un enfant abandonné qui est sauvé par la chiffonnerie. Et alors, dans les mystères du peuple, tu as insisté sur la conversation du chiffonnier
avec
le voleur, mais au chapitre suivant, il y a la conversation du chiffonnier avec le garde municipal, qui est un pendant de la conversation avec le voleur.
Oui.
Et c'est une scène très intéressante, puisque le chiffonnier, au chapitre suivant, est sur une barricade, en 48, qu'il est blessé.
Oui.
Il est blessé en même temps que le garde municipal qui lui a tiré dessus. Et il se retrouve dans la même ambulance.
Oui.
Et dans la même ambulance, ils s'entendent, parce qu'ils sont tous les deux républicains. Et donc, il y a le parallèle de ces deux conversations.
C'est vrai, mais c'est le garde municipal
Garde municipal, sergent.
Le garde municipal, le sergent,
qui
fait partie des forces de l'ordre, les défenseurs de la République, dans un certain sens du mot République. Tandis que entre le voleur, le chiffonnier et le garde municipal, quels sont les vrais rapports? Alors, il y a une certaine intimité entre... Il y a hostilité entre voleur et chiffonnier. Il y a intimité entre chiffonnier et garde municipal. Parce qu'au niveau idéologique, pour Eugène Sue, je veux dire, la République, le vrai sens du mot République, se trouve là. Tandis qu'ailleurs, c'était... tout le temps, fondamentalement, le sens de ce mot « république » en 1948 était contesté. Mais dans cet épisode dont tu parles, Antoine, la contestation n'existe nulle part. Garde municipal, force de l'ordre, chiffonnier du même bord. C'est ça que j'appelle le chiffonnier politiquement correct.
Oui. Oui.
Mais bon, mais... Antoine a raison, le sujet est plus riche.
Alors, maintenant, sur le jeu rebus, j'avais cité ce proverbe qui vient du dictionnaire de Nodier, « Mettez les rébus au rebut ». Donc, c'est un jeu, c'est un calembour qui associe, en effet, fortement rébus et rebut. C'est pourquoi, dans mon dernier cours, j'avais essayé de montrer que les petites vieilles ne pouvaient être que des chiffonnières. Les vieilles ne peuvent être que des chiffonnières. Et notamment, elles se promènent avec ces sacs à rébus qui datent du directoire. Donc, des sacs qui ont 60 ans, au moment où elles se promènent avec. Donc, je crois qu'on peut vraiment faire une lecture des petites vieilles en voyant dans les petites vieilles des chiffonnières, de même qu'on peut faire une lecture des sept vieillards en voyant dans les sept vieillards des chiffonniers avec leur croc qu'on appelle un sept.
Hein,
le sept. Donc, il y a une possibilité de les relire, ces poèmes, en montrant que le système du chiffonnage dissémine abondamment dans ces textes de Baudelaire. Mais, bon, tu vois, ça, c'est beaucoup de questions et de débats à propos de ce que tu as dit, auxquels j'ai été très sensible, mais voilà.
D'autres questions ou interventions?
suis sûr qu'il y en a.
C'est pas grave s'il n'y en a pas.
Si, si, si.
Et si je peux rajouter que mon petit, le petit trip là, le rêve parisien à moi, mon propre rêve parisien, j'ai construit ça entièrement en fonction de hommage à mon ami Antoine. Ça, c'est pourquoi il figure dans l'intervention. J'ai trouvé ça irrésistible. Bon, ça va ? On y va.
Si.
T'en passes ?
Pas de questions ? Alors, moi, j'ai encore une remarque à faire. Oui, tu disais que du temps dessus, le papier était déjà fait avec du bois.
Oui, la poulpe de bois.
Non, pas encore.
Si.
Pas vraiment. Les premiers brevets datent de 1844, à mon sens, pour faire du papier avec le bois. On a cherché beaucoup au 19e siècle, mais ça s'est répandu plus tard dans le siècle. On le sait, quand on va dans les bibliothèques, les livres jusqu'aux années 70 oui. sont de bonne qualité.
Oui, mais pas tous.
Ils sont...
Quelle était la technologie pour la production et la publication, la production matérielle, je veux dire...
Du papier.
Du papier pour les journaux.
Eh bien, c'était des vieux papiers, mais ce n'était pas encore du bois. C'était sûr, vieux papier et chiffon. On mettait, je crois
je
aussi, on met dans le papier, il y a beaucoup de déchets. On met du.
Oui, oui, ça.
Il y a beaucoup de déchets.
Oui, oui.
Mais la technologie.
C'était pas la poulpe de bois.
Pas encore dans ces années-là.
Alors, si c'est le cas, je me suis carrément trompé. Ouais. Mais bon.
Non, on l'a cherché à le faire. On a cherché des moyens d'avoir du papier plus économique.
Oui.
Mais ça ne s'est pas vraiment mis au point avant un peu plus tard dans le siècle.